Après votre diplôme de céramiste, vous faites la fac d'histoire, vous aimez le sport et vous détestez les injustices. Vous êtes enseignante en lettres et depuis 1982, vous militez à Lutte ouvrière.
Oui, c'est exact.
Et pourquoi ?
Bien, comme vous venez de le dire, les injustices, les inégalités sociales, la manière dont le monde tourne, c'est quelque chose qui m'a révoltée. Et quand j'ai rencontré les idées communistes, ça a permis d'avoir des réponses à un certain nombre de questions que je me posais, notamment sur les guerres qu'il pouvait y avoir, sur la misère grandissante. Alors je voyais quand même que les possibilités de la société, elles étaient énormes et techniquement, on pouvait apporter des remèdes, mais l'organisation sociale était en retard par rapport aux possibilités techniques. Donc c'est à cela que j'ai voulu remédier.
Oui, bonjour Farida, bonjour Yann.
Bonjour.
Farida, même si vous avez peu de goût pour la personnalisation de la candidate, comment vous est venu le goût de la politique? Je crois que c'est en lisant Arlette Laguiller.
Notamment, et en découvrant aussi les idées communistes, hein, en lisant Marx, en lisant Rosa Luxembourg, en comprenant pourquoi dans cette société il y a des crises économiques. Comprendre, c'est quelque chose qui me passionne, et je crois que vivre dans l'ignorance, c'est ce qu'il y a de pire aujourd'hui dans cette société.
Farida Meghlou, Lutte ouvrière est devenue incontournable. On retrouve la voix des travailleurs, travailleuses à chaque élection. Et vous-même, vous êtes devenue, en somme, l'Arlette Laguiller de la région centre. Ça fait 6 fois que vous vous présentez en 8 ans. Ça sert à quoi, puisqu'en fait, vous n'avez pas d'élu et que vous n'avez fait qu'un pour cent aux dernières régionales, ou un petit peu plus?
Vous savez, entre deux élections, on continue à militer, on continue à prendre position, on continue à agir. Et donc, c'est la moindre des choses que quand une occasion se présente pour nous de s'adresser à un nombre de travailleurs, s'adresser aux classes populaires de façon plus large, d'être présent. Et à chaque fois, c'est l'occasion de faire entendre le camp des travailleurs. Vous savez, la vie politique, elle est monopolisée par les porte-paroles de la bourgeoisie, de la classe sociale qui domine. Eh bien, nous, on a l'ambition, justement, de faire entendre le camp de ceux qu'on n'entend pas et de faire entendre leurs intérêts.
Vous n'avez pas envie d'être élu, en fait?
Si, nous avons envie de faire le maximum de voix, mais par contre, ce que nous disons aux électeurs, aux travailleurs qui vont se prononcer sur le programme qu'on va défendre et qui vont pouvoir exprimer leur colère et leur révolte vis-à-vis du gouvernement et du patronat qui ne font qu'attaque sur attaque, bien ce qu'on leur dit, c'est que là, l'occasion se présente avec les élections d'exprimer cette révolte, mais si on veut vraiment que les choses changent, et c'est ce qui diffère de tous les autres partis politiques, eh bien il faudra qu'on se mobilise de façon ample et puissante pour que le monde du travail se fasse entendre.
Avez-vous eu du mal à faire votre liste?
Non, ce n'a pas été un problème. En réalité, ça représente l'implantation que nous avons dans les départements de la région où nous existons, comme je vous l'ai dit, en permanence.
Alors, qu'est-ce qu'on va trouver socio-professionnellement dans votre liste?
Les candidats de la liste de l'ouvrière, ils font tous partie du monde du travail. C'est-à-dire, ils font partie des salariés qui vivent de leur travail et qui n'ont pas de capitaux à faire fructifier. Des retraités, des actifs, des gens qui recherchent du travail. Donc, et ça, c'est notre identité.
Et les actifs ont du temps à consacrer?
Les actifs prennent du temps pour défendre ces idées-là. En réalité, on le fait en permanence. On le fait quand on travaille, on le fait dans notre voisinage, on le fait et on prend sur notre temps de loisir pour cette campagne.
C'est un militantiste de tous les jours?
C'est un militantisme quotidien parce qu'en réalité, chaque jour, on allume sa radio, hein, et puis on écoute les nouvelles du monde et on écoute les attaques, on écoute l'idéologie qui se présente et on a envie de réagir.
Et pour revenir à vous, quelle est votre vie, Farida Meghlou? Vous êtes prof d'histoire, ensuite vous militez à Lutte ouvrière, vous avez des loisirs quand même?
Beaucoup de loisirs.
Qu'est-ce que
je prends le temps, j'aime lire par exemple, ouais. La lecture c'est une de mes passions favorites, sortir avec des amis, aller au cinéma, comme beaucoup de monde.
Et vous avez écrit un livre aussi?
Oui.
Vous pouvez en parler aussi, je crois que c'est intéressant.
Oui, parce que je suis passionnée par l'histoire, voilà. Je vous ai expliqué, comprendre le ressort de l'histoire. Donc effectivement, j'ai écrit un livre sur la civilisation arabe, son essor et ses apports, parce que ça fait partie de notre patrimoine. Mais toutes les périodes historiques m'intéressent. Mais celle-là, j'avais envie d'apporter un éclairage particulier.
Et de laisser une trace?
Non, pas de laisser une trace. Déjà, permettre d'offrir, partager ses idées, c'est ça la chose la plus importante.
Oui, Farida, même sans vous faire sauter au plafond, mais quand on dit que Lutte ouvrière est une secte, quand on dit que Lutte ouvrière est uniquement représentée par des femmes, Arlette Laguiller, et puis Nathalie Arthaud, vous-même, qu'est-ce que vous répondez à ça? Il y a toujours un halo de mystère sur Lutte ouvrière.
Je pense qu'il y a beaucoup d'âneries qui sont véhiculées. Véhiculées, je réponds. Hein. Donc, effectivement, être représentée par des femmes, je ne vois pas le problème. problème. Hein. On est fiers d'avoir été la première organisation à avoir eu une candidate à l'élection présidentielle, une femme et une travailleuse. Donc la parité, c'est quelque chose, on n'a pas eu besoin de loi pour la pratiquer.
On vous entend pas trop parler de féminisme quand même, c'est pas votre morceau de choix.
Notre féminisme, on l'étale pas, on le pratique, voilà. On le pratique, ne serait-ce qu'en ayant la parité à travers toutes les têtes de liste régionales et départementales. Et je peux vous dire que ce n'est pas, pas la réalité pour les autres listes.
Et sur le côté un peu militaire, un peu...
Déterminé. Donc je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut. Nous, on a des convictions, on veut les défendre et on veut s'organiser pour ça. Et puis en réalité, ce n'est pas simplement les militants qui devront s'organiser. Aujourd'hui, face au coup, il faudra que les travailleurs non seulement se révoltent, mais il faudra qu'ils s'organisent de façon consciente.
Votre programme, on va se recentrer un petit peu sur notre région. Qu'est-ce que Lutte Ouvrière propose? Qu'est-ce que vous allez défendre?
Bien, nous, dans cette campagne, qui est en réalité pour nous une campagne politique, on n'a pas un programme pour la région. On a un programme pour les travailleurs de cette région comme de toutes les régions. Notre programme, il sera identique. Nous, on veut faire entendre le camp des travailleurs. On veut qu'aujourd'hui, les travailleurs puissent, à travers le vote pour nos listes, exprimer leur écœurement, leur mécontentement face à tous ces coups qui ne cessent de pleuvoir. Il n'y a pas une semaine sans attaque de la part du gouvernement, de la part du patronat. Il n'y a pas une semaine sans qu'on fasse des cadeaux au patronat. Donc c'est les sacrifices et l'austérité pour les classes populaires, les travailleurs. Parmi ces attaques, les dernières en date, il y a les complémentaires. Bien sûr, ça je dénonce. Il y a les attaques sur le code du travail. Plus on avance, on est au 21e siècle, et on nous explique que c'est ringard d'avoir des droits pour les travailleurs. On nous explique que ce qui est moderne, c'est de détruire les conditions de travail. Et ben non, on n'est pas d'accord avec ça.
Les idées que vous défendez, ça a vraiment sa place dans une élection régionale ?
Bien sûr. Vous savez, dans les élections régionales, qu'est-ce que vont défendre les partis qui sont aptes à diriger l'exécutif des conseils régionaux ? Ils vont dire... Il faut lire ce qu'ils écrivent. Il faut aider les entreprises. Ils en ont des pages et des pages pour aider les entreprises. Ils déclinent régionalement ce que le gouvernement fait nationalement. Donc, si ça, ce n'est pas de la politique, aider les entreprises, c'est de la politique. Et bien, nous, on s'oppose à ça. On s'oppose au fait qu'il faut arroser le patronat. On pense que l'argent public, il doit servir au service public. Dans l'Indre, là, récemment, les personnels des trésoreries générales se sont mobilisés parce qu'il y a des trésoreries qui ferment. Voilà l'argent public, ce que ça veut dire quand il est arrosé par dizaines de milliards. Hein, le crédit impôt compétitivité, le pacte de responsabilité, le crédit impôt recherche. La liste est longue, on ne les connaît même pas toutes, ces cadeaux, enfin toutes ces aides qui sont faites sans aucune contrepartie. Parce que le chantage quand même, c'était 1 million d'emplois. Hein. Le Gattaz, le représentant du MEDEF, il faisait fort de créer 1 million d'emplois s'il avait 20 milliards. Les 20 milliards, il les a eus. Où est le million d'emplois ?
Madame Meglou, il y a quand même des listes aussi qui défendent les travailleurs, ou au moins qui disent défendre les travailleurs. Là, vous venez parler des aides au patronat, comme vous dites. Le Front de Gauche a le même discours que vous. Pourquoi pas faire liste commune avec eux ?
Bien, il y a des aspects que le Front de Gauche peut dénoncer. Hein. Aujourd'hui, il se démarque du gouvernement. Mais il y a quand même une grosse différence entre le Front de Gauche et nous-mêmes. Hein, le fait qu'il a permis d'hisser au pouvoir le gouvernement aujourd'hui qui pratique l'austérité, qui mène des coups contre les travailleurs.
Vous préfériez Sarkozy. Donc,
et qui nous a fait croire que tout sauf Sarkozy, c'était la solution. Parce qu'en réalité, le Front de Gauche, qu'est-ce qu'il dit ? Il ne dit pas ce qu'on dit. Il ne dit pas que le sort des travailleurs dépendra de luttes amples, profondes, massives, sur des objectifs qui remettent en cause la dictature de la bourgeoisie aujourd'hui. Il dit comme les autres, votez pour nous, ayons un bon élu à la région, ayons des bons élus au gouvernement et les choses changeront. Parce qu'en réalité, je termine, le vrai pouvoir dans la société, vous savez, il dépendra pas des urnes. On ne vote pas aujourd'hui pour ceux qui dirigent l'économie. On ne vote pas pour ceux qui sont à la tête des conseils d'administration, les actionnaires qui imposent leurs lois à toute la société, qui décident des plans de licenciement comme Air France. Vous avez vu Alcatel, là ? Alcatel, on connaît dans la région à Orléans. Hein. Alcatel avait un site qu'il a fermé. Alcatel a été racheté par Nokia. Alcatel, Nokia annonce 4 milliards de dividendes à verser aux actionnaires, là. L'action Alcatel a monté de 9% en quelques heures. Deviennent les travailleurs qui sont obligés d'aller travailler dans la région parisienne ? Que deviennent-ils ?
Vous parlez d'Air France, vous parlez d'actualité.
Oui.
Vous défendez ceux qui, effectivement, ont arraché la chemise du DRH d'Air France ?
Moi, je suis solidaire de la colère que ces travailleurs ont exprimée face au énième plan de licenciement dont ils ont été victimes. Oui, j'en suis solidaire. Et la violence, en réalité, elle n'est pas du côté des travailleurs qui se révoltent et qui ne se résignent pas. La violence, elle est du côté de ceux qui agressent les travailleurs, de ceux qui leur demandent des énièmes sacrifices. Air France n'est pas au bord de la faillite, hein. Air France a 90% de ses vols qui sont pleins. Air France, là, ils disent que les bénéfices sont là. Donc, et le problème qu'ils ont, c'est qu'ils veulent des bénéfices à deux chiffres.
Oui, ils ont du mal quand même à faire face à la concurrence des low cost. Il faut quand même dire ce qu'il y a.
Aujourd'hui, leurs vols sont pleins à 90%. Ils veulent des bénéfices à deux chiffres. Eh bien, tout le problème de la société, là, Alcatel veut des bénéfices à deux chiffres. 8%, 9%, ça ne leur suffit pas, il leur faut du 15 ou du 20%. Eh bien, on en crève de ça.
Vous parlez du national. Est-ce qu'il y a des grèves quand même emblématiques dans cette région, puisqu'il faut bien parler de cette région centre? Quelles sont les grèves qui vous ont marqué ces derniers temps? Des luttes des travailleurs, comme vous dites.
Eh bien, moi, il y a des luttes de travailleurs récemment. Oui. Hein. Regardez dans le département, à Pithiviers, il y a une entreprise comme BCS. Hein, c'est pas un grand groupe, mais c'est pas une entreprise qui est au bord de la faillite. Hein. Le patron fait le choix de réorganiser et de restructurer ces entreprises. Et 39 travailleurs se retrouvent sur le carreau. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est une région qui a déjà durement été touchée par les licenciements. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces travailleurs?
Il y a eu le cas de Michelin aussi, à jouer les tours.
Alors, j'allais y venir.
Oui,
Michelin Michelin, c'est un grand groupe. C'est un grand groupe qui a des entreprises dans la région. 700 personnes ont perdu leur emploi à jouer les tours. Et il faut voir les conditions de travail des ouvriers à Michelin Saint-Doulchard. Parce que d'un côté, il y en a qui crèvent au chômage, qui perdent leur emploi. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui restent, à qui on impose les 5-8, qui subissent des accidents de travail, qui subissent l'explosion des maladies professionnelles. Nous avons des camarades qui sont présents dans ces entreprises, qui témoignent de ça quotidiennement. Ben, si nous étions élus, et nous avons eu d'ailleurs un camarade qui a été élu au conseil régional en 98, Jean-Jacques Prodhomme, nous dénoncerions toutes les aides aux entreprises. Nous serions favorables à tout ce qui irait dans le sens des classes populaires, des travailleurs, concernant l'éducation, concernant les transports, tout ce qui faciliterait, tout ce qui... Mais par contre, tout ce qui serait aide au patronat, non. On serait à la fois les yeux et les oreilles des travailleurs dans ces conseils régionaux.
Le contrôle justement des fonds de la région en direction des entreprises, comme le propose le Parti communiste, pour parler clairement, puisque le Front de gauche, ça n'existe plus, c'est le Parti communiste, ça ne vous satisfait pas, ça? Le moindre euro... vérifier.
Alors, une fois, ça serait un minimum. Ça serait un minimum de contrôler cet argent. Aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle. Mais le problème, ce n'est pas simplement de contrôler où va l'argent, parce qu'on sait très bien que l'argent, là où il va. Le problème, c'est que qu'est-ce que font? Est-ce qu'ils aident? Est-ce qu'ils créent des emplois? On leur demande de rembourser s'ils n'ont pas créé les emplois prévus.
C'est ce qui a été fait à Scott Pepper il y a quelques années à Orléans.
On leur demande de rembourser. Oui. Est-ce qu'on l'a demandé à Safety, là, qui est en train de supprimer des emplois en Indre-et-Loire, dans la région de Tours, à Fondette? Est-ce qu'on va leur demander de rembourser? Je ne crois pas. Et vous savez, les immenses aides qui sont accordées, en réalité, le sont à fond perdu. Et les conseils régionaux, comme l'État, pour les entreprises, en particulier les grands groupes, parce qu'en réalité, c'est les grands groupes qui en bénéficient, hein, qui ont les avocats, les experts, qui sont capables de faire les dossiers, qui sont au courant des aides avant qu'elles existent, parce qu'ils les exigent avant qu'elles existent, pour ça. Donc, c'est eux qui en profitent.
Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la formation et l'éducation. C'est un dossier que vous connaissez bien. Vous êtes élu, qu'est-ce que vous développeriez pour notre région au niveau de la formation et de l'éducation?
Eh bien, je pense que un des problèmes majeurs de l'éducation, c'est quand même les moyens humains. Hein. Bien sûr, la région, elle a rénové des lycées, et puis ça, c'est une bonne chose. Hein. Tout ce qui peut améliorer le confort des lycéens, des enseignants, tant mieux. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Aujourd'hui, on sait très bien que pour justement faire progresser des élèves, pour que le travail se fasse correctement, il faut des moyens humains. En enseignant, mais pas simplement, aussi en surveillant, en encadrant, en agent. Et puis des personnels qui soient bien payés. Parce que moi, je suis confrontée à beaucoup de gens dans les collèges, dans les lycées, qui sont agents, qui sont précaires, qui sont à temps partiel. Non, ça, c'est pas possible. On ne peut pas tolérer ça aujourd'hui.
Sauf que la compétence de la région, elle n'est pas sur les enseignants. Elle est sur les lycées eux-mêmes, sur le matériel.
Et le personnel agent.
Le personnel agent. Alors, justement, François Bonneau.
Je pense que ça, c'est important, parce que sans eux, les lycées et les collèges ne fonctionneraient pas. Et au quotidien, le travail qu'ils font n'est pas reconnu parce que leur salaire, hein, souvent, il avoisine le SMIC et c'est loin d'être suffisant parce qu'aujourd'hui, il y a un problème sur les salaires. Il y a un problème sur les salaires, il y a un problème sur l'emploi. Et vous voyez, hein, plutôt que d'aider les entreprises, hein, à fond perdu parce qu'elle ne crée pas d'emploi, parce qu'on a parlé d'entreprises qui licencient, mais Michelin bénéficie de ces aides, hein, au titre du pôle de compétitivité d'Estopol, les grands groupes comme L'Oréal, pôle de compétitivité avec la Cosmetic Valley. Vous croyez qu'ils ont besoin d'aide? Ils font des milliards de bénéfices? Non, ceux qui ont besoin d'aide aujourd'hui, ce sont ceux qui sont embauchés dans les collèges, qui les font tourner. Il faudrait qu'ils aient des augmentations de salaire.
Ce qu'on appelle les atos, hein, c'est ça.
Voilà. Les atos, les personnels agents.
L'actualité, François Bonneau a annoncé hier à Châteauneuf-sur-Loire l'ouverture d'un lycée dans ce secteur pour décharger notamment le lycée de la Source où vous êtes et puis le lycée de Saint-Jean-de-Bray. C'est plutôt une bonne chose, non, d'investir dans ces lycées à l'échéance 2017.
Ben voilà, c'est une bonne chose. S'il y a un lycée qui se crée avec des moyens qui sont afférents, ben on serait pour. On ne va pas s'opposer à ça.
D'accord. Donc là, vous voteriez pour. Vous voyez qu'il y a des choses...
Ben je vous les ai dit, tout ce qui était favorable à la population, aux travailleurs, eh bien oui, on serait pour. Parce que des lycéens fassent des kilomètres pour aller apprendre, ben ce n'est pas une bonne chose parce que leurs horaires sont chargés, les journées sont longues.
Est-ce que vous avez un programme sur les transports, par exemple? Vous savez qu'entre la droite et la gauche, c'est une des différences. Disons, pour simplifier, la droite veut plutôt aider les routes, enfin de mettre de l'argent sur les routes, et la gauche sur les transports collectifs comme le ferroviaire. Vous avez un avis là-dessus?
Moi, je serais plutôt pour, évidemment, pour le ferroviaire. Le problème, c'est pas ce qui se fait, parce que vous dites que la droite, elle a un programme plutôt pour le collectif. En tout cas, nationalement, c'est pas le cas.
Hein. Non, pour les routes, j'ai dit.
Non, je parle de la gauche, excusez-moi. Oui. Nationalement, ils suppriment plutôt des lignes et puis ils mettent des bus à la place à la SNCF, que je sache. Hein.
Oui, ils mettent de l'argent sur les TGV.
Voilà, et puis Macron, dans sa loi, il favorise les bus, là, plutôt que les lignes de chemin de fer. Ben, les transports, moi j'étais à Gien la semaine dernière. Hein, et j'ai rencontré des travailleurs, des gens qui sont à la retraite, qui ont travaillé dans la région parisienne, qui avaient de la famille dans la région de Gien, et qui ont choisi de s'installer pour leur retraite là-bas. Ils apprennent que la ligne de chemin de fer, elle est fermée. Eh bien, ils sont en colère, ils sont mobilisés. Eh bien, moi, je suis de leur côté, et je pense que ce n'est pas normal qu'on ferme des lignes de chemin de fer. Alors, quand vous me dites que la gauche est du côté des transports collectifs, je suis sceptique. Hein, il y a ce qu'on fait localement, ce qu'on fait nationalement. Voilà.
Les projets de rouverture, notamment de la ligne Orléans-Chartres et de la ligne Orléans-Châteauneuf.
Ça fait longtemps que vous êtes journaliste, la ligne Orléans-Chartres. Vous en avez entendu parler. Moi aussi, ça fait longtemps que j'ai entendu parler.
Ça fait un petit moment, effectivement. C'est un serpent de mer, si on peut dire.
Bon.
On verra peut-être le jour de cette ligne.
Pour rester sur l'actualité et s'évader un peu de la région, on parle beaucoup des réfugiés, ceux qui viennent de la guerre en Érythrée, en Afghanistan et en Syrie, malheureusement. On a l'impression qu'en Europe, il y a des régimes, on va dire, autoritaires et de droite qui s'installent, notamment en Pologne le week-end dernier. Et on assiste à une lepenisation des esprits sur ces réfugiés. Vous pensez que ça va jouer un rôle dans ces régionales?
À propos des réfugiés, vous voulez dire?
Oui.
Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que je voudrais déjà vous dire, c'est ma position sur ces réfugiés. Mais moi, je suis contre la politique de mettre des barbelés, des rissés, des murs, hein, pour empêcher des populations qui fuient la guerre, hein, que ce soit les bombes ou la famine. Eh bien, moi, je suis pour la libre circulation de ces migrants et leur libre installation là où ils le souhaitent. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils subissent, ils ne sont pas responsables de ce qu'ils subissent. Et les grandes puissances, hein, en particulier la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, les grandes puissances, ils ont une responsabilité mais écrasante dans le sort que vivent les populations syriennes et dans le sort que vivent la famine en Afrique. Donc la moindre des choses, eh ben, justement, ça serait de leur permettre d'être accueillis dignement. Et moi, je combats justement ceux qui nous disent bah oui, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Oui, parce qu'en réalité, ce discours, c'est un discours de résignation. Parce que la misère, ça se combat. Au nom de quoi on ne peut pas combattre la misère? Quand on nous dit ça, c'est une manière de nous dire oui, la misère de ceux qui arrivent, on ne peut pas l'accepter. Et puis celle des autres, la vôtre, future, non plus. Donc c'est un combat commun pour moi. Ces migrants, ce sont nos frères de classe. Il faut les accueillir. Et c'est une question d'humanité, tout simplement.
Ce qui a commencé à être fait donc, dans le Loiret, puisque 55 d'entre eux ont été accueillis, notamment à l'AFPA d'Olivet. Donc vous êtes favorable à ce qu'on en accueille encore plus? on a les moyens de le faire.
Je suis favorable à ce que ceux qui souhaitent venir dans le Loiret, parce qu'il faut quand même le viennent. Je suis pour la libre circulation et la libre installation, pas qu'on les oblige à aller là ou là, à vivre dans des camps. Il y a des millions de personnes qui vivent dans des camps. Il faudrait peut-être se poser la question de quoi est en réalité le sort des migrants aujourd'hui, hein, doit nous faire poser le problème des guerres qui existent, de notre organisation de la société. Et vous savez, dans cette élection, les travailleurs, ils pourront voter sur un programme qui remet en cause justement tout ça.
Qu'est-ce que vous pensez du front de gauche dont on parle beaucoup en ce moment pour le second tour des régionales? Vous ne voulez pas entendre parler d'une alliance avec les partis de gauche. Néanmoins, s'il y a une menace du Front National, qu'est-ce que vous appelez à voter pour qui?
Bien, je crois qu'au deuxième tour, vous savez, ça va se dessiner entre la droite, la gauche et éventuellement le Front National, hein, dans certains endroits. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'argument de campagne du Parti Socialiste et l'argument de campagne de la droite, c'est de dire il faut voter pour nous, sinon vous aurez le Front National. Bien, je trouve qu'ils sont un peu gonflés quand même. Pourquoi? Parce qu'ils ont successivement été au pouvoir, et c'est par leur politique, la politique qu'ils ont menée justement de sacrifice, de chômage, d'aide aux plus riches, bien, c'est ça qui a nourri, de désillusion, c'est ça qui a nourri l'essor du Front National. Alors non, pas question de s'aligner derrière des dirigeants politiques qui sont responsables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et qui sont les premier responsable justement de la montée du Front National.
Et vous ne donnerez pas de consigne de vote entre les deux tours?
En tout cas, moi, le front républicain, pas question d'en entendre parler, parce que vous savez, ils prétendent être le rempart contre le Front National, mais quand je vois la manière dont Valls, par exemple, hein, reprend les idées du Front National, son discours sécuritaire par rapport aux migrants, justement, pourquoi aujourd'hui il a ce discours-là? Est-ce que c'est parce qu'en France, on ne peut pas accueillir 30 000, 100 000 Bien sûr qu'on peut les accueillir, ce n'est même pas un problème économique. J'ai entendu le patron du MEDEF, Gattaz, dire « c'est une aubaine, ça serait une aubaine pour la France, hein, de les accueillir, hein, puisqu'ils sont formés, ils sont éduqués. »
Bon, front commun avec Gattaz, c'est pas rare, du tout.
Ce que je veux vous dire, c'est que si Valls parle ainsi, c'est sous la pression d'extrême droite. Alors comment on va pouvoir considérer des gens qui parlent sous la pression d'extrême droite comme un rempart contre l'extrême droite? Non.
Mais vous aussi, vous êtes sous la pression de l'extrême droite, ils vous piquent vos électeurs quand même. C'est la classe ouvrière qui vote pour le Front National en partie, et pas que là.
En partie. Donc ça ne change rien notre discours, voyez. Je crois que là, vous vous trompez sur le sens du mot pression.
Christian, on ressent un petit peu au niveau de notre région. Le tourisme, c'est important pour une région. Comment vous voyez un peu le développement du tourisme dans une région comme la région centre?
C'est 35 000 salariés quand même, le tourisme. C'est énorme. Important. C'est aussi des gens qui travaillent dans une situation assez précaire.
Hein, c'est difficile.
Voilà. Je pense que le tourisme, c'est une activité comme une autre. Mais moi, ma pensée va plutôt aux travailleurs qui travaillent dans ces secteurs, les hôtels, les restaurations. Vous voyez, hein, pour revenir à un aspect, c'est qu'on avait dit, bah oui, il faut baisser la TVA pour qu'on puisse embaucher, pour qu'on puisse augmenter les salaires. Mais je ne crois pas que les travailleurs de la restauration et de l'hôtellerie ont vu leur sort s'améliorer depuis que la baisse de la TVA elle a été faite. Quel contrôle il y a eu là-dessus? Rien du tout. Donc ça, je le dénonce. C'est une raison supplémentaire pour arrêter toutes ces aides aux entreprises qui sont faites à fond perdu. Hein. Il faudrait par contre augmenter les salaires. Il faudrait que, et ça fait partie justement des exigences du monde du travail, les indexer sur les prix, et pas simplement les salaires, mais les allocations, les pensions de retraite. Aujourd'hui, les pensions de retraite, elles sont, il y a des millions de retraités qui vivent avec des pensions de misère. Ce n'est pas acceptable après toute une vie de travail.
Les associations, c'était aussi une pomme de discorde entre la droite et la gauche. Vous avez une idée là-dessus, sur les capassos notamment, que la droite accuse la gauche de financer d'une façon, disons, chez ses amis essentiellement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est des procès entre eux. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a rien que dans la région, il y a plein d'associations qui agissent au quotidien dans les quartiers, heureusement qu'ils sont là, pour faire de l'alphabétisation, pour lutter contre l'illettrisme, pour aider les populations. Donc c'est aussi la défaillance des services publics, des fois dans certains quartiers, qui sont laissés à l'abandon. Donc ça, je dénonce cette défaillance.
On arrive au terme de cette émission. J'aurais voulu vous poser donc la dernière question. Dans les années à venir, votre espoir, c'est quoi?
Mon espoir, c'est que la population, les travailleurs, les classes populaires se mobilisent de façon puissante et mettent en avant, renouent avec le chemin des luttes, renouent avec le drapeau de la lutte de classe, hein, pour contester le pouvoir de la bourgeoisie, hein, sa dictature, en mettant en avant l'objectif de l'interdiction des licenciements pour lutter contre le chômage. C'est une évidence. Pour augmenter les salaires, les pensions de retraite. Et l'autre mesure essentielle que les classes populaires devront mettre en avant, c'est la levée du secret commercial et bancaire, la levée du secret des affaires, sans laquelle tout contrôle de la population sur ce qui se passe ou dans les conseils régionaux où on veut, eh bien, ça sera lettre morte. Parce qu'aujourd'hui, il faut absolument que la population mette son nez dans les affaires. Donc, mon espoir, c'est que les travailleurs renouent avec le chemin des luttes. Et en attendant, ils pourront, le 6 décembre, voter pour les listes lutte ouvrière pour exprimer cette opinion.